On reste avec ça.
Voilà, mardi donc 3 février 2026. Donc c'est notre 5e séance consacrée à la lecture du traité théologico-politique de Spinoza, que vous trouvez dans une collection de poche facile à trouver, Garnier Flammarion, dans la traduction Apune. Voilà. Donc, elle devait se tenir initialement le 22 janvier, mais pour des raisons de santé, bon, je n'ai pas pu l'assurer. Elle a donc lieu seulement aujourd'hui. Alors, après les deux premiers chapitres sur la prophétie et les prophètes, après le chapitre 3 sur l'élection du peuple juif, nous abordons donc le chapitre 6 sur les miracles. Et je reviendrai ensuite, lors de la prochaine séance, normalement, qui devrait se tenir le 12 février, mais on en reparlera, je devrais traiter le chapitre 4, qui porte sur la loi divine. Alors, ce choix peut paraître curieux, d'autant plus curieux que l'analyse que fait Spinoza du miracle au chapitre 6 s'appuie sur une démonstration qu'il a faite au chapitre 4, mais je procède ainsi dans la mesure où le chapitre 4 me paraît très dense, assez difficile, et où ce qu'il est nécessaire de savoir de ce chapitre pour expliquer le chapitre 6 n'est en revanche pas trop difficile à comprendre. Mais avant d'aborder la lecture du chapitre 6, donc sur les miracles, une petite présentation générale de la question des miracles me paraît nécessaire. Par miracle, nous entendons un événement d'origine surnaturelle, d'origine divine. Mais si nous examinons l'usage qui est fait le plus souvent aujourd'hui de la notion de miracle, eh bien nous voyons que le miracle désigne simplement un phénomène exceptionnel qui n'a aucune signification religieuse. Par exemple, je donnerai cet exemple, hein, s'il arrive que cette année, l'équipe du Havre de football gagne le championnat de France, ben on criera au miracle. On criera également au miracle s'il se produit un redressement de notre situation économique inattendu. Donc pour trouver des miracles, vous voyez, il faut lire surtout la littérature sportive ou la presse économique, quand il est question de performances exceptionnelles surprenantes. Non que le sens religieux ait disparu, le miracle comme événement d'origine divine, mais le sens du terme de miracle est relégué aujourd'hui. Il est relégué au domaine des attentes religieuses jugées archaïques, superstitieuses, qui sont surtout considérées comme révélatrices des angoisses et des misères des hommes. Et c'est ainsi qu'on évoque assez souvent, sur le mode de la plaisanterie, avec un brin d'ironie, les miracles de Lourdes, ou ceux de Sainte Thérèse de Lisieux. Pour mémoire, vous savez que la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous en 1858, dans la grotte de Massabielle. Alors, les mauvais esprits, les esprits impertinents, remarquent que le XIXe siècle fut un siècle particulièrement propice aux guérisons miraculeuses. Suivez mon regard. Et on voit par là que le miracle est accueilli souvent avec beaucoup de scepticisme aujourd'hui, y compris chez les croyants. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui de la question. Mais cette question était en revanche du plus haut intérêt au XVIIe siècle, à l'époque où Spinoza rédige son traité. Et pas seulement comme question religieuse, mais aussi comme question philosophique. Alors, cette époque, c'est en effet l'époque où se constitue, avec Galilée et Descartes, la physique moderne, qui consiste dans une connaissance mathématique de la nature. Et selon la science nouvelle, bah, tout ce qui arrive, arrive du fait de causes antérieures, impliquant nécessairement leurs effets. Et donc, c'est en référence au principe de causalité, sous sa forme scientifique, que la question du miracle va se poser. Tout fait, tout événement, tout phénomène, est l'effet d'une cause naturelle qui le produit selon une loi, c'est-à-dire selon un rapport nécessaire et constant, comme la loi de la chute des corps, comme la loi de la dilatation des métaux, et toutes les lois de la nature, hein, qui sont des rapports constants et nécessaires entre des phénomènes. Dans son sens scientifique, la loi, ce n'est pas un commandement prescrit aux hommes. C'est un rapport nécessaire et constant entre des variables que l'on peut formuler mathématiquement. Les mathématiques vont servir d'instrument à la physique. Et dès lors, le problème est celui de savoir s'il y a des faits qui échappent au cadre des lois de la nature. Et par miracle, on n'entend pas simplement alors un fait insolite, un fait inattendu que nous sommes incapables d'expliquer étant donné les limites de notre connaissance, mais on entend un fait dont on affirme, à tort ou à raison, qu'il est a priori inexplicable. Car il s'agit d'un fait exceptionnel qui ne peut pas entrer dans le cadre des lois de la nature. Et c'est par rapport à ce cadre qu'on évalue ainsi la possibilité ou non du miracle. Alors, qu'un homme atteint d'une grave maladie guérisse subitement, durablement, sans souffrir d'aucune séquelle, on peut penser qu'il s'agit là d'un fait qui a tout de même une explication, même si on ne la connaît pas. Mais qu'un mort revienne à la vie 3 jours après sa mort, alors c'est quelque chose d'impossible au regard des lois de la nature. Et si cela se produit, c'est bien un miracle. Alors sous cet angle, la question du miracle est une question philosophique qui engage une réflexion sur le statut des lois de la nature auxquelles dérogent les miracles et sur les limites de la rationalité, c'est-à-dire sur notre pouvoir d'explication. Mais le miracle n'est pas seulement un événement extraordinaire, un événement inexplicable qui contredit les lois de la nature. Il est aussi et surtout un signe qui témoigne d'une révélation particulière de Dieu. Et c'est en cela qu'il a une dimension religieuse. Alors le problème ici, c'est celui de son authentification et de son interprétation. C'est-à-dire que, à quoi reconnaît-on qu'un miracle est vraiment un miracle et non pas une supercherie? Qu'est-ce qui permet d'en déchiffrer le sens? Voilà les questions qui vont se poser. Mais ce qui est important ici n'est pas tant que le miracle soit un événement extraordinaire qui contredit les lois de la nature, c'est avant tout qu'il soit un signe divin qui témoigne de la présence de Dieu et de son attention aux hommes auxquels il s'adresse. Alors deux exemples. Lorsque dans la Bible, plus exactement dans l'Exode, Dieu appelle Moïse pour lui confier la mission de faire sortir son peuple d'Égypte, Moïse lui réclame un signe pour se faire reconnaître comme l'envoyé de Dieu auprès du peuple juif. Dieu lui répond alors par un miracle, en faisant en sorte que le bâton qu'il tient se change en serpent avant de redevenir bâton. Deuxième exemple, contemporain de Spinoza, le miracle de la Sainte Épine en 1656, relaté par Pascal dans ses Pensées. Il faut ici présenter les circonstances de ce miracle. Alors que la doctrine janséniste est violemment attaquée, et c'est la doctrine à laquelle se rattache Pascal, un miracle se produit au monastère de Port-Royal, qui était le haut lieu du jansénisme à cette époque. Et ce miracle a lieu en mars 1656. La propre nièce de Pascal, la petite Marguerite Perrier, est miraculeusement guérie d'une fistule lacrymale profonde après avoir touché une sainte relique. Alors la guérison est instantanée, le miracle est reconnu par tous, y compris par les adversaires des jansénistes, et Pascal y voit le signe que Dieu a tranché en faveur de la cause janséniste. Selon lui, le miracle montre que la doctrine janséniste est vraie et qu'elle n'est en rien une hérésie. Donc vous voyez ici que le miracle appelle une interprétation et une méthode de discernement. Vous voyez donc que la question du miracle renvoie à une double interrogation. D'abord sur le statut des lois de la nature et des limites de la rationalité, et puis ensuite sur son caractère de signe divin, qui exige une interprétation. Et c'est par rapport à ce double questionnement, qu'on peut situer l'originalité de la réflexion de Spinoza sur les miracles. Et c'est aussi par rapport à ce cadre qu'on va pouvoir comprendre pourquoi la pensée de Spinoza fit scandale auprès de ses contemporains. Spinoza est quasiment le seul penseur à son époque qui réfute la possibilité du miracle. En soutenant qu'il n'y a jamais eu de miracle, que le miracle est impossible, c'est ce qu'on va voir. Évidemment, par miracle, ici, j'entends une intervention divine dans le cours de la nature et de l'histoire humaine. Eh bien, en soutenant que le miracle est impossible, Spinoza heurtait les sensibilités religieuses de son époque. Et pour bon nombre de ses contemporains, nier l'existence des miracles revenait tout simplement à nier l'existence de Dieu et de sa providence. Et c'était aussi considéré, au fond, que les récits des événements miraculeux rapportés par la Bible, comme le récit du miracle de la mer Rouge, eh bien, c'était considéré que tout cela n'était rien d'autre que conte de fées, qu'on ne doit pas prendre au sérieux. Alors voilà pourquoi Spinoza avait la réputation d'être un athée, un homme impie, et qu'il fut victime de persécution. Et vous le savez, on l'avait dit, c'est en partie pour combattre l'accusation d'athéisme qu'on portait contre lui, eh bien qu'il rédige son traité, comme il le confie, donc en 1665, à son ami Oldenburg, dans une lettre que je vous avais citée. Alors, j'ai dit que Spinoza était quasiment le seul penseur à soutenir la thèse de l'impossibilité du miracle. Pourquoi quasiment ? Parce que 2 ans avant la publication de son traité, son ami Adrian Körberg avait soutenu la même thèse dans un livre écrit en néerlandais. La publication de ce livre lui valut d'être dénoncé par son éditeur, d'être condamné pour blasphème et jeté en prison, où il mourut 1 an plus tard. Et on soupçonna Spinoza d'avoir été son inspirateur, ce qui sans doute n'est pas faux, car Körberg reprenait les principes philosophique de Spinoza, qui était son ami. Donc, c'est pour ça que je dis que Spinoza était quasiment le seul. À part Spinoza, aucun philosophe, aucun savant au XVIIe siècle n'excluait la possibilité du miracle. Dans leur ensemble, les penseurs considéraient que la nature ne peut pas être un système autosubsistant et autosuffisant, Il considérait que la nature est la création de Dieu qui en a établi les lois. Dieu, qui est l'auteur de la nature, peut ainsi suspendre le cours des lois de la nature et intervenir par des miracles. Par sa volonté, qui est au-dessus des lois de la nature qu'il a établies, eh bien, Dieu peut interrompre le cours des lois pour signifier sa puissance, que rien n'enchaîne, et pour exercer sa providence. Mais si la plupart des penseurs admettent la possibilité du miracle, ils ne s'accordent pas tous, en revanche, sur la manière dont Dieu opère pour produire des miracles. Il y a une discussion là-dessus. Est-ce que Dieu agit au cas par cas? Est-ce que ces miracles sont des interventions ajustées opportunément à des occasions particulières, sans qu'il y ait là un plan préconçu? C'est comme va le montrer Spinoza, la thèse qui reçoit l'adhésion populaire. Mais un penseur comme le français protestant Pierre Bayle, réfugié à Rotterdam, ira dans ce sens dans ses Pensées diverses sur la comète qui sont publiées en 1680, 10 ans après le traité théologico-politique. Ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'une intervention, je reprends ma question, est-ce qu'au contraire Dieu opère selon un plan préconçu? Est-ce qu'il ordonne les miracles dès l'acte de création de façon à ce qu'ils surviennent le moment opportun? Ça, c'est la thèse d'un grand philosophe comme le métaphysicien Leibniz, contemporain de Spinoza. Thèse qu'il soutient notamment dans ses essais de Théodicée. Et selon ce grand philosophe, qui a d'ailleurs rencontré Spinoza, si les miracles sont bien une exception par rapport à une loi particulière de la nature, ils ne sont pas une exception par rapport à l'ordre général de l'univers que veut la sagesse divine. C'est-à-dire que, pour Leibniz, les miracles entrent dans le plan divin. Ils sont l'œuvre de la providence divine. Et les lois de la nature ne sont, selon son expression, que des maximes subalternes, c'est-à-dire des maximes secondaires. Elles ne sont qu'une coutume de Dieu dont il peut se dispenser au nom d'une loi plus générale par laquelle il conçoit le meilleur des mondes possibles. Donc, vous voyez que le miracle, c'est une exception seulement par rapport aux lois de la nature, ce n'est pas une exception par rapport à l'ordre général de l'univers. Il est intégré. Alors, bien sûr, je ne peux pas ici entrer dans la précision de l'argumentation de Leibniz, ce n'est pas mon propos, mais quel que soit les divergences quant à la manière de concevoir la façon dont Dieu opère pour produire des miracles, la grande majorité des penseurs ne doute pas que Dieu puisse s'affranchir des lois de la nature qu'il a lui-même établies. Le miracle renvoie à la volonté divine. Il est un événement qui témoigne de sa providence. Quant à la seconde interrogation, celle qui porte sur le miracle en tant que signe, il n'est pas nécessaire d'accorder son existence pour s'y intéresser. Et vous verrez que on peut considérer comme Spinoza que le miracle relève de l'ignorance et de la superstition et s'intéresser au sens qu'il a pour les hommes superstitieux. Et Spinoza va montrer ainsi, à la fin du chapitre 6, c'est ce qu'on va voir, il va montrer le rôle important que joue le récit des miracles dans l'imaginaire d'un peuple, dans l'imagination des hommes, en organisant la mémoire collective de ce peuple, en renforçant sa cohésion, comme cela fut le cas pour les anciens hébreux dont il est question justement dans la Bible. Et l'analyse de Spinoza montrera ainsi que le miracle a une fonction idéologique d'intégration politique. Alors après cette présentation de la question du miracle et des interrogations qu'elle suscite, eh bien nous pouvons aborder maintenant, oui, la lecture du chapitre 6 du traité théologico-politique, dont je vous rappelle que je le lis dans la traduction Apule, collection Garnier-Flammarion. Et vous avez les extraits avec vous. Alors, Spinoza indique lui-même la composition du chapitre. Après un examen des préjugés de ce qu'il appelle le vulgaire sur la question, il s'agira pour lui d'analyser le miracle en quatre points qui sont présentés au bas de la page 118. On va les voir tout à l'heure. Mais voyons d'abord ce que dit le vulgaire. Voyons ce qu'il dit du miracle. Le chapitre 6 s'ouvre en effet sur la définition que le vulgaire donne du miracle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le vulgaire ? Qu'est-ce que Spinoza appelle le vulgaire ? Qui est ici l'acteur principal de ces premières pages. Par le terme vulgaire, qui vient du latin vulgus, qui veut dire la foule, ou le peuple au sens péjoratif, eh bien, par ce terme, Spinoza désigne les hommes tels qu'ils sont, lorsqu'ils sont ignorants et livrés à leurs affects, c'est-à-dire quand ils se laissent porter par leur imagination et n'ont que mépris pour la raison. Et le vulgaire, c'est chacun de nous. Quand il n'a pas fait l'effort, au fond, de réfléchir, quand il n'a pas exercé sa raison. Comme Spinoza l'a montré déjà au début de la préface de son traité, on en avait parlé, quand les hommes sont en proie à l'incertitude de l'avenir, eh bien, ils sont exposés à la crainte, et c'est alors qu'ils nourrissent des croyances superstitieuses. Ainsi, pour le vulgaire, le miracle est par excellence, je cite, « un ouvrage divin ». C'est-à-dire que pour le vulgaire, le miracle est la preuve la plus manifeste de la puissance et de la providence divine. Et le chapitre 6 commence ainsi par l'énoncé d'une analogie que je lis avec vous. Donc c'est la première page. De même que cette science qui dépasse la compréhension de l'homme est appelée divine, les hommes ont accoutumé d'appeler ouvrage divin, c'est-à-dire ouvrage de Dieu, un ouvrage dont la cause est ignorée du vulgaire. L'analogie qui est énoncé ici, donne la mesure de l'inversion opérée par l'ignorance des hommes, puisque c'est à l'aune de leur ignorance qu'ils jugent des limites de la connaissance humaine. Ainsi, de même que ce qu'ils ne comprennent pas, ils le décrètent humainement incompréhensible et l'érigent en science divine, inaccessible à l'homme. Eh bien, de même, les faits dont ils ignorent la cause, ils les décrètent inexplicables en les appelant miracles, considérant par là qu'ils sont l'œuvre de la volonté divine. Vous voyez que le vulgaire, au fond, l'opinion des hommes ignorants, ne perçoit ainsi la puissance et la providence de Dieu que sous la forme de l'insolite, que sous la forme d'événements exceptionnels et inattendus. Et je cite encore ligne 5, le vulgaire pense en effet que la puissance et la providence de Dieu n'apparaissent jamais plus clairement que lorsqu'il semble arriver dans la nature quelque chose d'insolite et de contraire à l'opinion qu'il a, à l'opinion qu'il en a en vertu d'habitudes acquises. Et plus loin, et il estime que nulle preuve plus claire ne peut être donnée de l'existence de Dieu qu'une apparente dérogation à l'ordre de la nature. Vous avez repéré le passage. Ainsi, l'existence de Dieu ne se manifeste jamais plus clairement, pour le vulgaire, que dans le désordre de la nature. Quand Dieu interrompt le cours naturel des choses pour produire des miracles. Mais ici, il y a une expression qui est utilisée par Spinoza qui peut être mal comprise. En tout cas, elle est ambiguë dans le passage que je vous ai lu. Ce que le vulgaire conçoit comme l'ordre de la nature n'est pas celui que connaît la raison en montrant l'enchaînement nécessaire des événements qui se produisent selon des lois, et en expliquant ces événements par leurs causes naturelles. Ce n'est pas ainsi que le vulgaire entend l'ordre naturel. Tout simplement parce qu'il ne raisonne pas, parce qu'il est ignorant. Aussi, l'ordre de la nature n'est-il pour lui que l'ordre qu'il imagine, conformément, je cite, à l'opinion qu'il en a en vertu d'habitudes acquises, ou comme l'écrit aussi plus loin Spinoza, cet ordre naturel n'est pour lui que l'ordre accoutumé. J'explique ce point. Le vulgaire n'a en effet qu'une connaissance empirique des choses. C'est-à-dire les seules régularités qu'il établit dans la nature procèdent de l'habitude. S'il a toujours vu des événements se suivre dans le même ordre, il s'attend à ce que cette suite se reproduise. Et tout événement qui interrompt l'ordre accoutumé, eh bien, il l'appelle miracle. Vous voyez qu'au fond, l'ordre naturel, c'est pour lui l'ordre auquel il est habitué, ni plus ni moins. On voit par là que le miracle n'est pour lui qu'un fait insolite qui rompt avec l'expérience courante, avec le cours habituel des choses. Ce n'est pas un fait qui contredit les lois de la nature dont il n'a absolument aucune idée. Et quand les narrateurs de la Bible rapportent des miracles, ils ne peuvent pas, bien sûr, les envisager comme des exceptions aux lois de la nature que conçoit la science. Ainsi, si on fait le point, à la racine de la croyance au miracle, il y a donc d'abord l'impossibilité pour les hommes ignorants, d'expliquer l'événement insolite qu'ils appellent miracle à partir de leur expérience courante. Mais il y a en plus aussi l'expression d'un intérêt. La croyance au miracle est une croyance intéressée qui voit dans l'événement miraculé le signe d'une intervention divine qui est favorable aux hommes. Par exemple, comme le dit Spinoza, surtout si cet événement, c'est ligne 9-10, hein, surtout si cet événement est pour lui, c'est-à-dire pour le vulgaire, l'occasion d'un gain ou d'un avantage. Et comme on l'a vu, en lisant le chapitre 3 sur l'élection du peuple juif, le miracle est appréhendé par ce peuple comme le signe de la préférence que Dieu lui accorde. Donc le miracle est le signe, au fond, de la préférence que Dieu vous accorde. Hein ? C'est un signe qui vous est favorable. Donc il y a ici une croyance intéressée, hein, pas seulement miracle, c'est pas simplement un fait insolite qui rompt avec l'expérience courante, c'est aussi ce qui est conçu comme le signe d'une intention de Dieu, hein, le signe de ses faveurs. Mais surtout, ce que va montrer Spinoza, c'est que la croyance au miracle repose tout entière sur l'idée que Dieu et la nature sont deux puissances distinctes. Deux puissances distinctes qui opèrent alternativement. Lisons le texte ici, si vous voulez. Ligne 16 à 20. Il, c'est-à-dire le vulgaire, il estime, autrement dit, que Dieu n'agit pas aussi longtemps que la nature agit suivant l'ordre accoutumé, et au contraire que la puissance de la nature et les causes naturelles sont inactives quand Dieu agit. Et Spinoza poursuit, il imagine donc deux puissances numériquement distinctes l'une de l'autre, la puissance de Dieu et celle des choses naturelles. Cette dernière déterminée cependant par Dieu, en une certaine manière, ou créée par Dieu, comme la plupart aiment mieux dire aujourd'hui. Fin de citation. Donc vous voyez, deux puissances. La deuxième, la puissance de la nature, a été créée par la première. Mais elle en est distincte. Donc selon l'image que s'en fait le vulgaire, Dieu intervient quand la nature cesse d'agir. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est ainsi présupposée par le vulgaire, comme responsable du phénomène insolite que constitue le miracle, tandis que la puissance naturelle est responsable, elle, du cours habituel des choses. Et partant de là, eh bien, Dieu ne se manifeste jamais mieux, il ne manifeste jamais mieux sa puissance, qui est infiniment supérieure à celle de la nature qu'il a créée, que lorsqu'il s'oppose à celle-ci. Hein, Dieu ne manifeste jamais mieux sa puissance que lorsqu'il s'oppose à la puissance de la nature. Et en distinguant et en opposant ainsi deux puissances, la puissance de Dieu qui est la puissance surnaturelle à la puissance naturelle, eh bien le vulgaire ne fait qu'imaginer ce qu'en réalité il ignore. Il n'y a là strictement aucun savoir. Comme l'écrit Spinoza, ligne 24, quant à ce qu'il entend par l'une et l'autre, c'est-à-dire par la puissance de Dieu et la puissance de la nature, et aussi par Dieu et la nature, il n'en sait rien. Le vulgaire se figure ainsi la puissance de Dieu de manière anthropomorphique. L'imagine comme le pouvoir d'une majesté royale, selon l'expression qu'utilise Spinoza, ligne 27. Hein, il se figure la puissance de Dieu comme le pouvoir d'une majesté royale, pouvoir opposé à la puissance de la nature, qui est imaginée quant à elle comme une force déchaînée. Et vous voyez ici que l'image de Dieu comme d'un roi tout-puissant, capable de dominer, de vaincre la force déchaînée de la nature, eh bien, suscite la dévotion à son égard, en permettant d'exalter sa gloire. Et je cite ici ce que dit Spinoza, ligne 38-40, « La puissance de Dieu ne lui paraît jamais plus admirable que lorsqu'il se représente la puissance de la nature vaincue par Dieu. » Je reprends, la puissance de Dieu ne lui paraît jamais plus admirable que lorsqu'il se représente la puissance de la nature vaincue par Dieu. Alors, ici, vous voyez, comme l'indique l'étymologie du terme de miracle, est miraculeux ce que l'on admire. On admire le miracle justement parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Parce qu'on en ignore les causes. Et ce n'est pas seulement ici que l'admiration s'explique par l'ignorance, c'est aussi que l'admiration maintient l'ignorance. Elle refuse, elle fait que les hommes refusent de chercher à en sortir. D'où l'animosité du vulgaire, c'est-à-dire des hommes ignorants, à l'encontre des savants. De tous ceux qui recherchent une explication rationnelle des faits que le vulgaire juge miraculeux. Lisez avec moi ligne 13 à 16. Pour cette raison, écrit Spinoza, Cela lui semble supprimer Dieu, ou au moins la providence de Dieu, qui explique les choses et les miracles par des causes naturelles, ou s'applique à les connaître clairement. Et vous voyez ici que la croyance au miracle aboutit à une véritable haine de la raison. Elle conduit à accuser les savants d'athéisme et d'impiété. Parmi eux, Spinoza. L'image de Dieu comme d'un roi majestueux qui produit providentiellement des miracles a ainsi pour effet d'exclure la raison et même de la combattre. Et Spinoza insiste particulièrement sur ce point dans les premières pages du chapitre. Lisez ligne 32. Ligne 32. Le vulgaire préfère ignorer les causes naturelles des choses et ne veut entendre parler que de ce qu'il ignore le plus et par suite admire le plus. On voit ainsi que les hommes ne se contentent pas d'admirer ce qu'ils ignorent le plus, ils désirent ignorer ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose que de miracles. Et ils exercent ainsi un véritable terrorisme intellectuel à l'encontre de tous ceux qui recherchent rationnellement des causes naturelles, en alléguant un ordre surnaturel qu'ils déclarent inaccessible à la compréhension humaine. Le miracle devient ainsi le moyen de maintenir coûte que coûte l'ignorance. Ou pour employer une formule de Spinoza qu'il utilisait dans l'appendice de la première partie de l'éthique, Dieu devient ainsi l'asile de l'ignorance. Ligne 34, regardez bien, lisez ce passage. Cela tient, explique Spinoza, à ce que le vulgaire n'y a pour lui de raison d'adorer Dieu et de tout rapporter à sa puissance et à sa volonté, qu'autant qu'on supprime les causes naturelles et imagine des choses supérieures à l'ordre de la nature. Autrement dit, moins on en sait, et plus on a de raison d'adorer Dieu comme une puissance obscure, mystérieuse, despotique, que l'on peut admirer aveuglément, comme une majesté royale. Et comme le relève enfin Spinoza, l'idée d'un dieu qui agit tel un roi en domptant la puissance de la nature, eh bien elle semble avoir son origine chez les premiers juifs, quand on lit la Bible. Souvenez-vous, on avait vu ça avec le chapitre 3. Pour convaincre les nations païennes de leur supériorité, nations païennes qui adoraient des divinités naturelles comme le soleil, et pour leur montrer que leur Dieu était faible et inconstant et qu'ils étaient en réalité soumis au commandement d'un Dieu invisible qui n'est autre que le Dieu des Juifs, eh bien ces derniers leur faisait le récit de leurs miracles de façon à prouver la supériorité de leur Dieu invisible qui s'avérait capable de diriger la nature à leur seul avantage. Présenté ainsi comme le signe de l'élection du peuple juif, les miracles étaient utilisés comme un instrument politique destiné à justifier leur autorité et leur supériorité sur les autres peuples. Et cette instrumentalisation politique du miracle fit ensuite des émules, puisque bientôt, comme le remarque Spinoza, elle se propagea à d'autres peuples et à l'humanité entière jusqu'à notre temps, dit-il, dès lors qu'elle devint, par exemple, le moyen d'affirmer une supériorité nationale. Gott mit uns, Dieu avec nous. Eh bien, regardez par exemple ce que dit Spinoza, ligne 48. Cela plut tellement aux hommes que, jusqu'à notre temps, ils n'ont pas cessé de forger par l'imagination des miracles pour qu'on les crût plus aimés de Dieu que les autres et qu'on vit en eux la cause finale en vue de laquelle Dieu a créé et dirige continuellement toute chose. Alors, si je fais le bilan des préjugés du vulgaire, on voit qu'il y a à la racine de ces préjugés, à la racine de ce que Spinoza caractérise comme les prétentions de l'humaine déraison qui se trouve associée à la croyance au miracle, c'est son expression, hein, prétention de l'humaine déraison, eh bien, à la racine de ces préjugés, il y a à la fois une représentation anthropomorphique de Dieu qui consiste, je cite ligne 54, qui consiste dans la confusion qui est faite entre les décisions de Dieu et celles des hommes. C'est-à-dire on se représente Dieu comme prenant des décisions à la façon des hommes. Donc il y a une représentation anthropomorphique de Dieu, et puis aussi une représentation anthropocentrique, une représentation anthropocentrique de la nature, par laquelle on imagine celle-ci comme un royaume limité, établi par Dieu, dont l'homme est la partie principale. Et d'une certaine manière, le chapitre 2 de la Genèse, hein, correspond tout à fait à ce que dit ici Spinoza. Alors après avoir fait état des opinions et des préjugés du vulgaire, eh bien Spinoza annonce au bas de la page 118, on va lire le passage, les quatre points qu'il va traiter dans son chapitre pour analyser le miracle. Alors, d'abord, ligne 72, vous allez voir, j'ai souligné, hein. Non, c'est ligne 60. On va montrer, je montrerai, dit-il, premièrement, qu'il n'arrive rien qui soit contre la nature et qu'elle conserve un ordre éternel, fixe et immuable. Première thèse. Et de cette première thèse découle la seconde thèse, qui est d'ordre théologique, qui concerne la nature de Dieu. Je cite, ligne 63, « Nous ne pouvons, par les miracles, connaître ni l'essence, ni l'existence, ni par conséquent la providence de Dieu. » Voilà les deux premières thèses. Ces deux premières thèses seront démontrées philosophiquement, rationnellement. Et dans un troisième temps, c'est le troisième point, Spinoza s'appuiera sur l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, pour confirmer ses thèses philosophiques. Puisque regardez bien ce qu'il écrit, ligne 67, il s'agira de montrer par quelques exemples tirés de l'Écriture que l'Écriture elle-même indique que tout ce qui arrive, sans exception, se produit selon des causes naturelles. Donc l'Écriture confirme les thèses philosophiques. Et puis, dernier point, quatrième point, ligne 72, il s'agira de réfléchir sur la façon dont il faut interpréter les miracles de l'Écriture et sur l'impact que produit leur récit sur l'imagination des hommes. Voilà les quatre points qui vont être abordés. Et là, c'est assez facile de se repérer, parce que Spinoza, vous voyez, balise le chemin. Alors, examinons la première thèse. Donc, voilà l'énoncé de la première thèse, je la rappelle. Il n'arrive rien qui soit contre la nature, et elle conserve un ordre éternel, fixe et immuable. Comme le mentionne Spinoza, cette première thèse s'appuie sur la conclusion de la démonstration qui a été faite au chapitre 4 sur la loi divine, ça se trouve page 91, que je peux reprendre ici très brièvement, c'est pas trop difficile à comprendre. Les hommes se représentent ordinairement Dieu comme un législateur ou comme un prince qui leur prescrit des lois. Et cette représentation présuppose qu'on distingue en lui deux facultés, sa volonté et son entendement. Dieu a ainsi une volonté en ce qu'il légifère, en ce qu'il ordonne la nature qu'il a créée, en ce qu'il en a établi les lois, en ce qu'il prescrit aux hommes des commandements. Vous voyez, il est législateur, donc par sa volonté. Et il a un entendement, puisque ce qu'il ordonne, il le conçoit, avant de le faire passer à l'existence. Vous voyez, donc deux facultés, volonté et entendement. Et précisément, c'est cette vision de Dieu qui est à la source de la croyance au miracle, comme va le montrer Spinoza. C'est cette vision de Dieu qui est à la source de la croyance au miracle qui résulterait du fait que Dieu, le législateur, a le pouvoir de s'écarter des lois de la nature qu'il a établies par sa volonté. C'est la distinction en Dieu entre sa volonté et son entendement qui aboutit à distinguer et à opposer la puissance de Dieu, puissance surnaturelle, à la puissance de la nature et à faire naître ainsi l'idée de miracle. Vous voyez, c'est du divorce, en quelque sorte, entre la volonté de Dieu et son entendement que va naître l'idée de miracle. Or, cette vision de Dieu résulte d'une projection anthropomorphique. Les hommes projettent sur Dieu la représentation qu'ils se font spontanément d'eux-mêmes, puisque les hommes croient, en effet, détenir un pouvoir absolu de décision qu'ils appellent leur volonté, parce qu'ils ignorent en réalité l'enchaînement des causes qui déterminent leur décision. Vous voyez ? Et comme ils ignorent les causes qui déterminent leur décision, et bien ils s'attribuent à eux-mêmes, ils attribuent à leur volonté, je dirais, l'origine de ces décisions. Donc les hommes imaginent ainsi que la volonté, leur volonté, prend d'elle-même une décision en choisissant l'option qui lui paraît la meilleure parmi les options que lui présente l'entendement, l'intelligence, on peut dire aussi à la place. Et les hommes se figurent pareillement l'action divine, en imaginant Dieu comme un législateur ou un prince qui choisit de prescrire des lois que son entendement lui propose, au fond, comme les meilleures. Et c'est de cette manière que les hommes envisagent la sagesse et la providence divine. Vous voyez, Dieu choisit ce que son entendement lui présente comme le meilleur. Or, comme l'explique Spinoza dans le chapitre 4, eh bien, on ne peut pas projeter sur Dieu la distinction que l'homme fait en lui entre sa volonté et son entendement. Distinction dont on a vu qu'elle repose sur l'ignorance dans laquelle les hommes sont de l'intégralité des causes qui déterminent leurs décisions. En Dieu, qui est l'être absolu, l'entendement ne se distingue pas de la volonté. Et c'est pourquoi je vous invite à lire ce qui est écrit dans la colonne de droite, toujours page 1, lignes 6 à 10. Voici ce qu'écrit Spinoza, j'ai souligné le passage. C'est tout un de dire que Dieu veut quelque chose et qu'il conçoit quelque chose. La même nécessité qui fait que Dieu, par sa nature et sa perfection, conçoit une chose comme elle est, fait aussi qu'il la veut comme elle est. C'est parce que nous imaginons qu'il y a en Dieu deux facultés, qui sont sa volonté et son entendement, que nous croyons qu'il a le pouvoir de s'écarter par sa volonté de la nature qu'il a créée et dont il a établi les lois, et dont il a conçu les lois par l'entendement. C'est parce que nous imaginons que la volonté de Dieu peut s'écarter de son entendement, par lequel il a conçu les lois de la nature, que nous sommes conduits à opposer la puissance de Dieu comme puissance surnaturelle, procédant de sa volonté, et la puissance de la nature, alors que pour Spinoza, elles sont identiques. La puissance de Dieu et la puissance de la nature sont une seule et même chose, Dieu ou la nature. Nous nous représentons ainsi Dieu comme une volonté capable de rompre avec le cours naturel des choses qu'il a instituées pour signifier sa volonté souveraine. Et c'est de ce divorce que nous imaginons entre la volonté de Dieu et son entendement, comme je le disais tout à l'heure, que naît l'idée de miracle. Or, il n'y a aucune distinction, il n'y a donc aucun divorce en Dieu entre sa volonté et son entendement. Ce que Dieu conçoit, il le veut nécessairement. Et par là, Dieu est à la fois le principe d'existence de toutes les choses, c'est lui qui fait toutes les choses, et en même temps le principe de leur intelligibilité. Il est ce qui fait que les choses, eh bien, sont toutes soumises à des lois qui émanent de Dieu et donc sont compréhensibles. Les lois universelles de la nature qui régissent toutes choses, ce ne sont pas des décrets qui résultent d'un choix de Dieu qui aurait pu ne pas être ou qui aurait pu être autrement. Vous voyez, quand on distingue la volonté de l'entendement en Dieu, eh bien, on considère que Dieu aurait pu vouloir d'autres lois ou qu'il aurait pu ne pas vouloir des lois de la nature, que c'est suspendu à sa volonté. Vous voyez ? Donc, pour Spinoza, les lois universelles de la nature qui régissent toutes choses ne sont pas des décrets qui résultent d'un choix de Dieu qui aurait pu être autrement. Ce ne sont pas non plus des décrets qui pourraient être transgressés par la volonté de Dieu en produisant des miracles. Puisque, au fond, qu'est-ce que signifie l'idée de miracle ? Ça veut dire que Dieu pourrait ne pas suivre les lois de la nature. Il pourrait s'en affranchir. Vous voyez ? Non, pour Spinoza, les lois qui régissent la nature sont des décrets qui découlent de la nécessité et de la perfection de la nature de Dieu. C'est-à-dire que c'est en vertu de la nécessité de la nature divine que les lois de la nature s'imposent nécessairement à tous les êtres, à toutes les choses, et déterminent tout ce qui se produit dans la nature. Alors, encore une fois, vous comprenez bien ici que, pour Spinoza, Dieu ou la nature, Dieu, ce n'est pas une personne, Dieu, c'est, au fond, la réalité qui s'autoproduit et qui engendre toute chose. Et que c'est la seule façon rigoureuse de penser l'être absolu. L'être absolu, c'est ce qui explique tout. Et toutes les choses sont des produits de Dieu, sont des effets de sa toute-puissance, et en même temps expriment cette toute-puissance. Alors je cite ligne 10, ligne 14, ligne 10 à 14. Juste après le passage qu'on a lu. Puis donc que nécessairement rien n'est vrai, sinon par un décret divin, il suit de là très clairement que les lois universelles de la nature sont de simples décrets divins découlant de la nécessité et de la perfection de la nature divine. La puissance de Dieu, la puissance de la nature sont une seule et même chose. Et la nature, c'est le tout de la réalité. Hein. Et puis, si la puissance de Dieu et la puissance de la nature sont une seule et même chose, eh bien, qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que le miracle est impossible. Il est impossible pour un événement de se produire en violation des lois de la nature, puisque les lois de la nature sont l'expression de la nécessité divine. Non, alors, c'est impossible. Non pas parce que Dieu, qui se trouverait en dehors de la nature, serait impuissant à transgresser les lois de la nature qu'il a établies, mais parce que les lois de la nature sont l'expression unique de la puissance de Dieu, parce qu'elle découle nécessairement de sa nature. Et lisez avec moi ligne 27. Tout ce qui arrive en effet, hein, ligne 27. J'ai souligné le passage. Hein. Tout ce qui arrive en effet arrive par la volonté et le décret éternel de Dieu, c'est-à-dire comme nous l'avons déjà montré, rien n'arrive que suivant des lois et des règles enveloppant une nécessité éternelle. En conséquence, si un événement se produisait dans la nature qui contredit à ses lois, eh bien cela contredirait à la nature de Dieu. Possible. Et réciproquement, admettre que Dieu agit contrairement aux lois de la nature, ce serait admettre qu'il agit contre sa propre nature, ce qui serait absurde. Donc vous voyez que le miracle, non seulement est impossible, mais son affirmation est une absurdité. Alors, contrairement à l'idée reçue, si les miracles s'étaient effectivement produits, s'ils pouvaient réellement se produire, ils ne témoigneraient pas de la puissance infinie et éternelle de Dieu. Et bien au contraire, ils témoigneraient de ses limites et de son impuissance. Cela voudrait dire que la nature de Cela voudrait dire que la nature que Dieu est censé avoir créée serait limitée, imparfaite. Un système qui demande en effet des interventions divines de l'extérieur comme pour le réparer, apparaît comme un ouvrage mal fait, un ouvrage insuffisant, qui reflète un manque de prévision de son créateur. Et vous voyez ici que cet argument vise surtout la représentation populaire que l'on se fait de la manière d'opérer de Dieu quand il produit des miracles. Vous voyez, il intervient hein, au coup par coup, quoi, en quelque sorte. Eh bien, si c'était ainsi, ça voudrait dire que la nature est mal faite, et que son créateur est franchement incapable, d'une certaine manière. Hein. C'est un argument ici qui plaide plutôt contre la puissance infini de Dieu. Alors, je cite Spinoza, regardez, ligne 42. En juger autrement, ne serait-ce pas admettre que Dieu a créé une nature si impuissante et établi des lois et des règles si stériles qu'il est souvent obligé de lui venir en aide pour qu'elle se conserve et que les choses tournent selon son vœu. Donc, contrairement à l'idée reçue, le miracle ne plaide aucunement pour la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Alors, si je récapitule, dans le point, la nature observe, comme dit Spinoza, un ordre fixe et immuable. Ses lois sont universelles, elles s'étendent à toutes les choses et elles impliquent une absolue nécessité. Par conséquent, elles sont inviolables. Tout ce qui arrive, arrive par nécessité, même si cette nécessité n'est pas toujours manifeste pour nous, car nous sommes enclins, par ignorance, à croire qu'il y a de la contingence dans la nature, ça veut dire que nous sommes enclins à penser que les choses pourraient se produire autrement, qu'il pourrait y avoir des événements qui ne se produisent pas selon des lois, etc. Vous voyez, c'est notre ignorance qui nous fait parler de hasard et de contingence. Mais en réalité, il y a une stricte nécessité. Alors simplement, évidemment, notre intelligence n'est pas en mesure de comprendre, hein, de se hisser à la hauteur de la nécessité absolue de Dieu. Hein. Nous n'en comprenons qu'un petit bout, en quelque sorte. Alors la conclusion est claire. Le miracle n'existe pas et ne peut pas exister. Il n'y a de miracle que pour l'ignorant. En tirer toutes les conséquences, hein. Plutôt que de considérer le miracle comme une violation surnaturelle de la nature, comme on l'entend généralement, eh bien, un miracle devrait être correctement et simplement entendu comme un événement dont l'explication est inconnue. Point barre, si je peux dire. Vous voyez? Il n'y a rien de mystérieux, ce n'est pas une violation surnaturelle de la nature, c'est tout simplement un événement dont l'explication nous échappe, étant donné les limites de notre connaissance. D'une part, parce qu'il apparaît aux hommes ignorants comme un phénomène insolite, tout à fait surprenant, qui ne peuvent pas assimiler à des cas semblables dans le passé, ils ne peuvent pas le rapporter à l'ordre accoutumé. Et a fortiori, parce que les hommes sont incapables d'expliquer ce phénomène insolite par des causes naturelles, selon la démarche rationnelle qui est celle de la science. Et c'est pourquoi je vais ici citer Spinoza, ligne 51 à 56. Regardez bien ce qu'il écrit. J'ai souligné le passage. Il suit très clairement que le nom de miracle ne peut s'entendre que par rapport aux opinions des hommes et signifie tout uniment un ouvrage dont nous ne pouvons assigner la cause par l'exemple d'une autre chose accoutumée, ou que du moins ne peut expliquer l'auteur relatant le miracle. Et il ajoute plus loin, on va plus loin, regardez, ligne 60, les miracles ont été faits à la mesure de la compréhension du vulgaire, lequel ignorait totalement les principes des choses naturelles, c'est-à-dire, au fond, les principes de la science, quoi, en quelque sorte, hein, qui expliquent les choses naturelles. Alors, les anciens, c'est-à-dire les hommes de l'Antiquité, mais on peut dire aussi parmi eux les auteurs bibliques, ils étaient incultes. Ils ne pouvaient pas connaître la science de la nature. Ils tenaient pour miracle les phénomènes insolites qu'ils ne pouvaient pas rapporter à leur expérience courante, alors qu'il s'agissait de phénomènes qu'on peut expliquer aujourd'hui par des causes naturelles. Et vous avez ici quelques exemples que donne Spinoza. C'est d'abord l'exemple dans la Bible de Josué, que nous avons déjà rencontré, de Josué et des Hébreux, qui crurent que le soleil et la lune s'étaient arrêtés afin de leur permettre de vaincre leurs ennemis avant la tombée de la nuit. C'est que la terre est le centre et puis que le soleil tourne autour. C'est aussi l'exemple que donne Spinoza, plus loin, page 126, l'exemple de Noé, qui crut que Dieu fit apparaître miraculeusement un arc-en-ciel, alors que vous savez, que nous savons aujourd'hui, qu'il s'agit là d'un phénomène qui s'explique par les lois de la réflexion et de la réfraction, de la lumière. Comment voulez-vous que les hommes qui racontent ce miracle connaissent les lois de la réflexion, des lois de la réfraction et la réflexion? Bon. Donc ce que ces hommes ignoraient, ils étaient enclins à l'attribuer à la volonté de Dieu. Mais l'ignorance des causes naturelles d'un événement ne tient pas seulement à l'ignorance du narrateur, hein, qui le présente comme un miracle. Elle peut être aussi relative aux limites de notre connaissance scientifique, qui n'est pas en mesure d'expliquer. Mais comme le montre Spinoza, cela ne signifie pas pour autant que le phénomène soit inexplicable. Ce qui est inexpliqué n'est pas, a priori, inexplicable. Comme l'explique plus loin d'ailleurs Spinoza, même dans le cas d'un événement qui dépasse notre compréhension, il y a en principe une explication naturelle. Tout ce qui existe et se produit, se produisant nécessairement selon des lois naturelles universelles qui découlent de la nature de Dieu, tout doit pouvoir trouver une explication. L'univers est intégralement intelligible. Ainsi, des événements qui dépassent notre compréhension, il y a nécessairement des causes naturelles, même si nous ne les connaissons pas. Mais au lieu d'admettre notre ignorance face à un événement qui dépasse notre compréhension, eh bien, quand nous croyons au miracle, quand nous crions au miracle, nous alléguons une cause surnaturelle et nous faisons de l'événement inexpliqué quelque chose qui est a priori inexplicable. Et vous voyez en ce sens que la croyance au miracle s'oppose par principe à toute forme de savoir, à toute recherche des causes naturelles. Alors vous voyez que Spinoza a montré que le miracle est impossible, car il contredit la puissance de Dieu, qui, je le redis encore, est identique à la puissance de la nature. Alors que tous ceux qui croient au miracle, qui parlent de miracle, distinguent deux puissances. Donc nous pouvons dire en conséquence que le miracle ne nous fait rien connaître de l'existence et de la providence de Dieu. C'est-à-dire que de la première thèse, sur l'impossibilité du miracle, découle immédiatement la deuxième thèse sur la nature de Dieu. Et j'énonce la deuxième thèse, hein, je le rappelle, l'homme peut connaître l'essence de Dieu, non plus que son existence ou sa providence par les miracles, mais au contraire, on les perçoit beaucoup mieux par l'ordre fixe et immuable de la nature. C'est ça la deuxième thèse. Alors, vous voyez que Spinoza reprend le terme de providence. Mais est-ce qu'il le reprend tel qu'il est employé ordinairement? Absolument pas. Il lui ôte au contraire sa signification traditionnelle, selon laquelle Dieu agirait en vue d'une fin, en vue d'un but. La providence, pour Spinoza, ne renvoie pas à la volonté d'un Dieu sage et bon qui produirait des miracles pour manifester sa bonté et son attention aux hommes. Et ne parle pas ainsi, ne conçoit pas ainsi la providence. Puisque Dieu, encore une fois, n'est pas une volonté distincte de la nature qui leur donne selon un plan et dont il peut éventuellement se détacher. Dieu n'est autre que la nature. Il n'est autre que la nature et ses opérations, qui toutes, sans exception, se déploient selon des lois naturelles universelles. Donc la providence, pour Spinoza, ce n'est pas autre chose que l'ordre fixe et immuable de la nature, je reprends son expression. Ce n'est pas autre chose que l'ordre fixe et immuable de la nature, expression qui revient constamment. Ordre fixe et immuable de la nature, selon lequel tout ce qui arrive, arrive nécessairement par des causes naturelles. C'est au fond, pour le dire en langage moderne, l'ordre fixe et immuable de la nature, c'est le déterminisme absolu. Or, si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce que les hommes entendent par miracle ? Une interruption du cours de la nature. Une interruption des enchaînements nécessaires par lesquels s'expliquent les événements. C'est comme ça qu'ils l'entendent. Mais alors, si vous affirmez le miracle, hein, si vous lui accordez une existence, eh bien, à ce moment-là, il faut être conséquent. Le miracle interdit de considérer la nature comme un ordre fixe et immuable. Ah oui ? Il introduit du désordre. Il conduit à douter qu'il y ait de l'ordre. Et étant entendu que c'est par cet ordre que se trouvent enchaînées toutes les choses naturelles. Alors le vulgaire prétend que les miracles prouvent l'existence et la providence de Dieu, mais c'est exactement le contraire que leur affirmation engendre. Admettre en effet des miracles, loin de nous conduire à la connaissance de Dieu et de sa providence, au contraire, nous en ferait douter. Nous n'avons une connaissance authentique de Dieu que dans la mesure où nous savons que tout ce qui existe s'explique par lui et enveloppe sa nature. Donc, si vous considérez qu'il y a des interruptions, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Enfin, oui, ça n'a plus. La croyance au miracle ne nous donne qu'une image caricaturale de Dieu, puisqu'en l'imaginant comme ayant le pouvoir d'interrompre la nature, eh bien, cette image nie la puissance infinie de Dieu qui se déploie dans la nature selon des lois universelles et nécessaires. L'interruption de la nature que la croyance au miracle prétend affirmer revient à interrompre et à borner la puissance de Dieu, à empêcher Dieu, en quelque sorte, d'être Dieu. Puisque Dieu, s'il est Dieu, il s'étend à tout. Donc la croyance au miracle revient, en définitive, à nier l'existence de Dieu. Elle conduit à l'athéisme. Et vous voyez ici que Spinoza renverse l'accusation contre ses accusateurs. Ils prétendent, rappelez-vous, ils prétendent affirmer l'existence de Dieu et sa providence par les miracles. Mais en fait, qu'est-ce que montre Spinoza ? Il montre que ses détracteurs, ses accusateurs, n'ont qu'une image fausse et caricaturale de Dieu. Parce que le vrai Dieu, celui que l'on conçoit dans son absoluité, c'est celui qui produit toutes choses selon un ordre fixe et immuable, qui n'admet aucun miracle. Alors, regardez bien la conclusion de Spinoza. Regardez bien sa conclusion, page 2. Ligne 22 à 28. Colonne de gauche, page 2. Si donc il arrivait quelque chose dans la nature qui ne suivit pas de ses propres lois, cela contredirait à l'ordre nécessaire que Dieu a établi pour l'éternité dans la nature par le moyen des lois universelles de la nature. Cela donc serait contraire à la nature et à ses lois, et conséquemment, la foi au miracle nous ferait douter de tout, et nous conduirait à l'athéisme. Ce n'est pas un argument défensif, c'est un argument offensif. Alors avant de passer au troisième point, Spinoza montre que l'écriture confirme la manière de voir qu'il défend. Je cite, à savoir que par les miracles, nous ne pouvons connaître Dieu. C'est ce que confirme l'écriture. Et Spinoza illustre sa démonstration par trois exemples qui sont extraits de la Bible. Alors, je n'en citerai qu'un. Ouais, je ne peux pas, étant donné les limites de temps, on ne peut pas regarder tous les exemples. Hein. Je citerai surtout l'épisode du veau d'or. Chacun a entendu parler du veau d'or. Malgré les nombreux miracles dont ils ont bénéficié, explique Spinoza, eh bien les Israélites n'ont jamais pu former une idée saine de Dieu. Les miracles, ça ne vous incite pas à penser Dieu, à concevoir Dieu. Ça vous en donne une image caricaturale. Et regardez ce que dit Spinoza, ligne 58 à 61. Quand il se... Alors, vous voyez, en second lieu, voilà, il est parti de 55. En second lieu, les Israélites, avec tant de miracles, n'ont jamais pu former de Dieu une idée saine, comme l'atteste l'expérience. Quand ils se persuadèrent en effet que Moïse était parti, ils demandèrent à Aaron c'est le frère de Moïse, des dieux visibles. Et un veau, quelle honte, figura pour eux cette idée de Dieu que tant de miracles leur avaient enseigné à former. Vous voyez, les Israélites imposèrent à Aaron de leur fabriquer un veau d'or pour personnifier le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Ah, il avait besoin d'un Dieu visible. Et c'est ce Dieu-là qu'ils adoraient. Ils adoraient une image, au lieu d'adorer le vrai Dieu. Ils tombaient dans l'idolâtrie. Et oui, cet exemple confirme non seulement que les miracles ne nous font pas connaître Dieu, mais qu'ils favorisent une forme de corruption, une conduite immorale, hein, avec l'idolâtrie. Et plus loin dans le texte, Spinoza rappelle l'exemple des premiers juifs qui arguaient des miracles pour convaincre les païens de leur supériorité et donner ainsi une idée trompeuse de Dieu en racontant que Dieu leur accordait sa préférence, alors qu'il se montre en réalité accueillant à tous les hommes. Vous voyez, là aussi, c'est la croyance au miracle vous incite à avoir une image de Dieu qui est faussée, comme s'il se conduisait de manière exclusive, comme s'il ne favorisait qu'un peuple. Bon, alors j'en arrive au troisième point. Et ici, colonne de droite, page 2. Alors, le troisième point, je l'ai signalé. Hein. Je vais signaler comment se... Je passe, vous voyez, je passe donc au troisième point. C'est-à-dire, je cite, j'ai souligné le passage. Hein. Je vais montrer par l'écriture que les décrets et commandements de Dieu ne sont rien en réalité que l'ordre de la nature. Autrement dit, quand l'écriture dit que telle chose ou telle autre est arrivée par la volonté de Dieu, eh bien, il faut entendre en réalité simplement que cela est arrivé conformément aux lois et à l'ordre de la nature, non du tout comme le croit le vulgaire, que la nature a pour un temps cessé d'agir ou que son ordre a été interrompu. Fin de citation. Donc il va s'agir de montrer que l'écriture, la Bible, hein, que l'écriture elle-même confirme ce qui a été démontré par la raison dans les deux points précédents. La méthode consistera ainsi à montrer qu'à chaque récit de miracle correspond une explication par des causes naturelles. Alors, cette démarche se heurte cependant à une objection, aussitôt énoncée par Spinoza. Regardez juste après. Je lis. Toutefois, l'Écriture n'enseigne pas directement ce qui ne concerne pas sa doctrine propre, parce que son objet n'est pas, nous l'avons montré à propos de la loi divine, de faire connaître les choses par des causes naturelles, non plus que de donner un enseignement spéculatif. Alors, sans parler du chapitre 4, il suffit de se souvenir de la fin du chapitre 2 que nous avons lu ensemble. Chapitre 2 sur les prophètes. Comme le montrait la fin du chapitre, l'Écriture n'a pas pour vocation d'enseigner la vérité sur les choses naturelles ou sur la nature de Dieu. Vous vous souvenez, hein ? Mais elle se rapporte à des questions morales. Elle se rapporte, pour reprendre une formule du chapitre 2, elle se rapporte à la charité et à l'usage de la vie. Son enseignement est moral. Et comme dit ici, je reprends ces formules, comme le dit ici Spinoza, son objet, l'objet de l'écriture, n'est donc pas de faire connaître les choses par des causes naturelles, non plus que de donner un enseignement spéculatif. D'où la difficulté qui va se poser. Est-ce qu'on va pouvoir trouver dans l'écriture, dans les récits qu'elle fait des miracles, quelque chose comme une démonstration qui montre que ce qui est appelé miracle s'explique par des causes naturelles? Est-ce qu'on va pouvoir trouver dans le récit qu'elle fait des miracles des passages qui démontrent au fond que ce que la raison a déjà démontré est juste, est vrai, qu'au fond les événements s'expliquent par des causes naturelles? Est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur l'écriture, vraiment, alors que ce n'est pas son objet, alors que son enseignement n'est pas, ne concerne pas ici, au fond, une explication sur la réalité naturelle, hein, ce n'est pas ça son but. Alors, pour Spinoza, oui, on peut établir une démonstration par l'écriture en, je reprends ces expressions, en mettant à profit pour cela certains récits de l'écriture par chance plus longs et circonstanciés. Il y a des récits de l'écriture qui sont assez longs, assez circonstanciés, qui permettent, sur lesquels on peut s'appuyer pour montrer que celui qui a rédigé le récit, considérait au fond que les événements qui se produisent, qu'il relate, se produisent selon des causes naturelles. Deux exemples. Alors, il y a le premier, il est page 126. Alors, ici, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, enfin, peu importe, vous allez l'écouter. C'est assez facile à suivre. Il est dit, explique Spinoza, que Dieu changea les dispositions des Égyptiens et fit qu'ils prirent les Israélites, en haine. Donc je reprends. Il est dit que Dieu changea les dispositions des Égyptiens et fit qu'ils prirent les Israélites en haine. Or, le changement fut entièrement naturel, comme le montre le chapitre 1 de l'Exode, où est exposée la raison grave qui poussa les Égyptiens à réduire les Israélites en servitude. Si vous lisez le premier chapitre de l'Exode, vous comprenez très vite que si les Égyptiens réduisent les Juifs en servitude, c'est parce que ils ont peur de l'accroissement démographique des Israélites. Ils assistent à un accroissement démographique des Israélites qui vivent comme une menace. Et c'est pourquoi ils vont réagir, hein, de manière violente. C'est ça la raison naturelle. C'est dit, d'ailleurs, par le premier chapitre de l'Exode. Deuxième exemple. Au chapitre 9 de la Genèse, Dieu dit à Noé qu'il ferait apparaître l'arc-en-ciel dans la nuée. Or, cette action de Dieu se confond avec la réfraction et la réflexion des rayons du soleil que les rayons eux-mêmes subissent dans les gouttes d'eau. L'exemple que je vous ai cité tout à l'heure. Et Spinoza, de conclure, alors là, vous regardez le deuxième texte, colonne de droite, page 2, le début. Il n'est donc pas douteux que tout ce qui est raconté dans l'Écriture ne soit arrivé naturellement. Je reprends. Il n'est donc pas douteux que tout ce qui est raconté dans l'Écriture ne soit arrivé naturellement. Alors, il est vrai qu'on ne peut pas toujours trouver dans les récits de l'Écriture une présence aussi évidente des causes naturelles. Nous trouvons dans la Bible le récit de faits dont nous ne connaissons pas les causes, et ces faits sont présentés comme des miracles. Alors, qu'est-ce que dit Spinoza à leur sujet? Il dit que nous ne devons pas nous arrêter à la version du miracle. Je cite Spinoza, c'est ligne 15-16, « Nous devons croire, je le cite, hein, nous devons croire que tout ce qui est réellement arrivé est arrivé naturellement. » Nous devons partir du principe, même si nous ne connaissons pas les causes, que ce qui est arrivé par des causes naturelles. C'est la règle de lecture qu'il faut suivre, selon lui. Nous devons croire qu'il y a des causes naturelles, même si nous ne les connaissons pas. Et parmi les exemples cités par Spinoza, c'est page 127, il y a le célèbre miracle de la traversée de la mer Rouge à pied sec par les Hébreux qui fuyaient les Égyptiens. On connaît tous cet exemple. Pour Spinoza, aussi extraordinaire qu'ait été ce passage, il s'explique intégralement par des causes naturelles. Ainsi, le Russe, c'était un vent très fort qui avait soufflé une nuit entière. Le Russe écarta les eaux et ouvrit un passage aux Hébreux. Et l'épisode est relaté au chapitre 14 de l'Exode. Donc l'explication est naturelle. Et à la fin du chapitre 6, tout à la fin du chapitre 6, vous verrez que Spinoza cite l'historien Flavius Joseph, qui dans ses Antiquités juridiques, c'est le texte qu'il avait écrit, comparait le passage de la mer Rouge à celui de la mer de Pamphylie par les soldats d'Alexandre, le roi de Macédoine. Et Spinoza rejoint Flavius Joseph lorsque ce dernier montre qu'un fait étonnant, comme le passage de la mer Rouge, est susceptible d'une double lecture. Ce fait étonnant peut être compris de deux manières. Soit comme un miracle, comme c'est le cas pour les hommes ignorants, qui ont besoin de croire au miracle pour renforcer leur foi et faciliter en eux l'obéissance au commandement de Dieu, c'est-à-dire à la pratique de la charité et de la justice. Ça, c'est la lecture de l'ignorant qui a besoin de croire au miracle pour consolider sa foi en Dieu. Soit comme un fait qui, aussi étonnant soit-il, s'explique tout simplement par des causes naturelles. Ces deux lectures sont possibles. Évidemment, elles ne sont pas pratiquées de la même manière et par les mêmes. Alors, on demandera peut-être, et on se demandera ici peut-être, oui, pourquoi Spinoza s'intéresse aux miracles qui sont racontés dans l'Écriture, s'il est clair que pour lui, ils peuvent s'expliquer par des causes naturelles. Pourquoi s'intéresse-t-il aux miracles qui sont racontés par l'Écriture, alors que pour lui, il n'y a de miracle que pour les ignorants ? Hein, pourquoi ? Pourquoi se préoccuper des miracles si il est convaincu que, au fond, il n'y a de miracle que pour un ignorant ? Eh bien, précisément, le propos de Spinoza ne se borne pas à montrer que le miracle est affaire d'ignorance. Il ne se borne pas à montrer que la croyance au miracle enferme les hommes dans l'ignorance. Ça, oui, il l'a largement montré. Mais il ne se contente pas de ça. Ce n'est là qu'un aspect de son propos. Il s'agit aussi pour lui de comprendre le rôle que joue le récit des miracles sur l'imagination des hommes. Il s'agit de s'intéresser aux effets que ce récit produit sur leur conduite. Et si Spinoza écrit bien, je reprends ce passage que j'ai lu tout à l'heure, ligne 1 à 10, hein, le deuxième texte, si vous voulez, colonne de droite. S'il écrit bien qu'il n'est pas douteux que tout ce qui est raconté dans l'Écriture ne soit arrivé naturellement, c'est pour ajouter aussitôt, je cite, « Et cependant, ces faits sont rapportés à Dieu parce que l'objet de l'Écriture, comme nous l'avons déjà montré, n'est pas de faire connaître les choses par des causes naturelles, mais seulement de raconter des choses qui puissent tenir une grande place dans l'imagination. Et cela suivant une méthode et dans un style propre à exciter le plus possible l'admiration et à imprimer en conséquence la dévotion dans l'âme des sujets. » Alors voilà un passage très important. Très important. Ce qui importe avant tout pour l'Écriture, ce n'est pas la vérité des faits. L'Écriture n'a pas pour but d'enseigner la vérité. Ce qui importe avant tout pour l'Écriture, c'est que l'événement, en tant qu'il est présenté comme un miracle, soit rapporté à Dieu et raconté ainsi comme une intervention divine. Le miracle existe surtout par le récit qui en est fait aux hommes, dont la fonction, encore une fois, je reprends les termes de Spinoza, n'est pas de faire connaître les choses par des causes naturelles, mais seulement, je reprends son expression, de raconter des choses qui puissent tenir une grande place dans l'imagination. Le récit s'adresse à l'imagination. On pourrait ici paraphraser le texte en disant qu'il s'agit littéralement, au fond, d'investir l'imagination des hommes. Et de quelle manière et dans quel but ? Eh bien, je cite Spinoza, « Et cela, suivant une méthode et dans un style propre, à exciter le plus possible l'admiration et à imprimer en conséquence la dévotion dans l'âme du vulgaire. » Donc le récit des miracles a une fonction de persuasion. Il doit émouvoir par un style poétique. Il doit impressionner par des figures rhétoriques. Il doit exciter l'admiration et susciter la dévotion pour Dieu. C'est sa fonction. Alors ce n'est pas un récit comme un autre. Il diffère radicalement du récit de l'historien qui rapporte froidement des événements politiques. Je cite par exemple Spinoza, lisez, prenez page 3, ligne 9 à 14. Ligne 9 à 14, colonne de gauche. Si l'écriture racontait la ruine d'un État à la manière des historiens politiques, cela ne remuerait en rien la foule. L'effet est très grand, au contraire, quand on dépeint ce qui est arrivé d'un style poétique et qu'on le rapporte à Dieu, comme elle a accoutumé de le faire. Rien de plus saisissant, par exemple, que le récit de la colère de Dieu qui punit les hommes en rendant leur terre stérile du fait de leur péché. Ou alors, si on racontait, par exemple, qu'un État s'est écroulé parce que les hommes se sont mal comportés, alors là, oui, parce que Dieu est en colère, là, ça aurait quelque chose, ça aurait un effet. Vous voyez ? Donc, le pouvoir de persuasion du miracle s'appuie essentiellement sur la nature de son récit. Ce qui est important, c'est le récit. D'une part, ce récit vise à renforcer la relation du croyant à Dieu, sa relation intime à Dieu, en le persuadant de lui obéir et de pratiquer ainsi la justice et la charité. Et d'autre part, par là même, le récit vise aussi à renforcer la cohésion sociale. La cohésion sociale des hommes qui font un peuple, en organisant leur mémoire collective autour des miracles qui sont appréhendés comme des signes d'élection par le peuple juif. Hein ? Les miracles, je vais confère une sorte d'identité nationale, en quelque sorte, dans l'imaginaire des hommes. Et on voit ainsi que le miracle a une fonction idéologique. Il permet d'assurer l'intégration politique des hommes à une nation. Alors, j'en resterai là ce soir, parce que, quand même des limites de temps, alors il aurait fallu que je parle des observations que fait Spinoza à la fin du chapitre sur la différence qui existe entre sa méthode d'analyse du miracle et puis celle qu'il a utilisée pour étudier la prophétie. C'est intéressant, mais bon, je ne peux pas trop développer, ce serait trop long. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle donc que la prochaine séance, normalement le 12 février, mais regardez bien, hein, eh bien elle sera consacrée à la lecture du chapitre 4 qui traite de la loi divine. Merci. Voilà, et je suis à vos questions. Oui, alors. Non, allez-y.
Est-ce qu'on a un sens, par exemple, on ne pourrait pas dire que l'Iliade pour les Grecs joue un peu le même rôle que la Bible pour les croyants, en ce sens que c'était une construction.
Oui, en un sens, oui. Tout à fait. C'est vrai que les Grecs connaissaient par cœur, par l'éducation qu'ils recevaient, c'était une éducation essentiellement orale. Et on leur racontait tous les exploits des héros de l'Odyssée et de l'Iliade. C'était des poèmes qu'ils connaissaient par cœur. Il y avait aussi les poèmes d'Hésiode. C'était toute une culture orale dans laquelle ils baignaient et qui effectivement façonnait leur... leur identité. La différence, c'est que il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport à Dieu comme à un être transcendant qui est au-dessus de la nature. Il y a un rapport au Dieu, par contre, oui. Oui, non, mais on peut faire ce rapprochement. Alors, il faudrait aussi creuser, montrer aussi les différences. Mais votre rapprochement est juste. Hein. Oui.
Oui, ce que vous dites ou ce que dit Spinoza est lumineux. Moi, ce qui m'interroge peut-être, parce qu'il ne parle pas des miracles de Jésus, ce sont seulement ceux de l'Ancien Testament.
Oui. Alors.
Le dogme chrétien repose essentiellement sur un miracle majeur, c'est celui de la résurrection de Jésus. Si il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de pardon des péchés, de rédemption,
tout à fait.
Vie éternelle, etc. Donc, on comprend qu'il y a eu des ennuis avec la résurrection.
Alors, je vous réponds, il en parle dans sa correspondance.
Ah,
notamment avec son ami Oldenburg. Et il choque, d'une certaine façon, Oldenburg. Alors, effectivement, pour... j'en ai un peu parlé, tout de même, pour, déjà, hein, en parlant du premier chapitre et du deuxième chapitre, je ne sais plus. Spinoza a le plus grand respect pour la figure du Christ. Mais le Christ, il ne le voit pas comme le Fils de Dieu. Au fond, c'est une sorte de philosophe, si l'on veut, qui vit de l'intérieur, au fond, la loi divine. Non pas comme une loi, mais comme une vérité éternelle. Enfin, d'une certaine façon, le Christ, c'est une sorte de Spinoza, hein, si on peut le dire. Et il ne croit pas une seule seconde au miracle. C'est-à-dire que le miracle des miracles, c'est la création, hein, d'une certaine façon. Le fait que Dieu fasse exister le monde à partir de sa parole, qu'il fasse surgir de sa parole le monde, c'est déjà, au fond, un miracle. Et la résurrection, évidemment, est un miracle. Alors ça, effectivement, Spinoza n'y adhère pas. Ce sont pour lui des expressions imagées. Enfin, ce sont des images. Ce sont des paraboles. On ne doit pas les prendre au sérieux, les prendre à la lettre. Ce ne sont pas des réalités. Ce sont des manières d'exprimer, en quelque sorte, la régénération. Voilà, il faut l'entendre de cette façon, de façon symbolique. De façon symbolique. Et donc, oui, il en parle, s'il en parle. Mais il n'en parle pas dans le traité, directement. C'est vrai. Il parle surtout des miracles qui sont dans l'Ancien Testament.
Ça fout tout par terre dans le dogme chrétien. Donc, on comprend qu'il y a eu des ennuis, c'est ce que vous soulignez.
Ah ben, oui, bien sûr.
En ce sens, il est athée, malgré tout.
Ah, il est athée du point de vue de ceux qui croient que Dieu est un être bon qui veut une personne qui s'adresse aux hommes et effectivement il est athée si on considère que au fond il y a une immortalité de l'âme et que les hommes seront jugés par Dieu, hein, selon la vie qu'ils ont menée, hein, ils seront punis s'ils ont été méchants et ils seront récompensés s'ils ont été bons, enfin je simplifie, hein. Bon. Voilà, ça, effectivement, ça ne croit pas à ça.
Oui, Spinoza. C'est une vision très naïve, en fait.
Une vision anthropomorphique de Dieu, une vision... voilà.
Les témoins de Jéhovah, aujourd'hui, en donnent un exemple saisissant.
Oui, bien sûr. Oh, et pas que, hein, lui. Oui, oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Hein. C'est sûr que il admire... les textes de saint Paul, hein, il admire les évangiles de saint Jean. Vraiment, il se sent attiré par le christianisme, hein, mais comme philosophie, comme sagesse. Voilà. Hein, c'est oui.
Est-ce qu'il considère comme vulgaire les autres philosophes?
Alors, le vulgaire, ça veut dire l'opinion de ceux qui sont ignorants. Alors, donc, si vous voulez, alors, justement, votre question est intéressante parce que c'est vrai que vous vous souvenez, au début de son œuvre, dans la préface, à la fin de sa préface, il ne s'adresse pas aux hommes qui sont complètement prisonniers de la superstition. Il sait très bien que ce qu'il écrit sera très mal accueilli et suscitera... et suscitera effectivement la violence. Donc il préfère ne pas être lu par ces hommes-là. Ça, c'est clair. Il s'adresse à un public qui est prêt à raisonner, à philosopher, à faire du chemin avec lui. Et il s'adresse surtout à des hommes qui baignent dans une tradition philosophique et théologique comme celle, de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, en fait, ils croient en un Dieu, volonté, un Dieu qui a créé le monde, mais qui a créé le monde non pas en intervenant de façon arbitraire et capricieuse, mais en l'ordonnant selon un plan. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans ce type de christianisme, dans cette philosophie qui, tout de même, est subordonnée à la religion, hein, il y a tout de même, disons, des ingrédients de rationalité qui permettent de raisonner avec ses adeptes, voyez, de faire un bout de chemin avec eux. Alors évidemment, Spinoza, lui, il est beaucoup plus radical, considère que Dieu n'est pas une personne, Dieu n'est pas une volonté au-dessus de la nature, hein, même si il considère que Dieu, c'est la nature. Point. Voilà, ça, c'est ça, son affirmation, elle est radicale. Il n'y a pas autre chose que Dieu, qu'un Dieu immanent, dont nous sommes des parties. Là, effectivement, il y a une rupture de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'il s'adresse à des gens qui, je dirais, lisent les philosophes chrétiens, qui sont dans cette tradition. Hein, où, alors, par exemple, quels sont les penseurs qui ont surtout joué un grand rôle à la fin du Moyen-Âge ? Eh ben, il y a Averroès pour les musulmans, qui est un grand penseur, hein, et puis il y a Maïmonide pour les juifs, et puis Thomas d'Aquin, qui va hériter d'ailleurs de ces deux-là, hein, et qui, qui, au fond, développe une sorte de conception de la religion qui s'appuie sur la raison.
Et, oui. Il me semble que dans le traité de téléologico-politique, en exergue, il y a une citation de Jean.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Nous connaissons à ceci que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous, qui nous a donné de son esprit. Bon, parce que ça colle très bien, finalement, avec la conception de...
Bah, Dieu est en nous.
Immanence.
Absolument, Dieu est en nous.
Nous savons qu'il y a certains points qui sont repris.
Absolument. Dieu est en nous au sens où le désir, qui est, au fond, cette puissance d'exister, qui nous constitue, est une expression de la puissance infinie de Dieu.
Qui va jusqu'à mettre ça.
Voilà, absolument. Alors, évidemment, le problème, c'est que quand on parle de Dieu, on l'entend au sens traditionnel, au sens d'un Dieu qui est transcendant. Et évidemment, il n'est pas question de parler de Dieu de cette façon pour Spinoza. On ne s'adresse pas à Dieu. Dieu n'est pas une personne à laquelle on s'adresse. Hein ? On ne prie pas Dieu. On ne croit pas en Dieu. On sait que Dieu existe. Hein, c'est de l'ordre de la philosophie, du savoir. Vous voyez, mais d'un savoir qui n'est pas purement théorique, puisqu'il, je dirais, il transforme celui qui sait, hein, qui accède à l'amour intellectuel de Dieu. Hein, c'est la béatitude.
Il dit, nous savons, et nous expérimentons que
nous sommes éternels.
Donc, effectivement,
alors, c'est vrai qu'il flirte constamment avec un discours religieux, mais pour, d'une certaine façon, sortir de la conception de la religion traditionnelle. C'est clair. Hein, Dieu, c'est l'être. C'est le réel. Et il n'y a rien au-delà. C'est le réel qui nous englobe. Dont nous sommes des parties et des effets. Et par notre activité propre, par notre désir, puisque le désir, c'est cette force vitale qui nous constitue, eh bien, ce désir est l'expression de la puissance de Dieu.
Et c'est le livre 5
de Louis. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire.
C'est
difficile, absolument. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire. On avait une discussion au début d'année, mais là on peut mieux, plus facilement la reprendre. On ne peut pas faire de Spinoza une sorte de rationaliste desséché. Qui ne voit la raison que comme une sorte de, je dirais, de... La raison, c'est quelque chose qui... C'est l'expression réfléchie de notre désir. Elle n'est pas coupée du désir, la raison. Hein? Et donc, on ne peut pas, pour Spinoza, opposer d'un côté la raison et puis de l'autre côté le désir. Ou alors, si les hommes vivent la raison de cette manière, d'une certaine façon, elle n'a pas de prise, elle n'a pas d'impact, elle n'a pas d'effet sur leur vie.
Oui, la raison est motrice, en quelque sorte.
Elle émane du désir. Elle n'est pas quelque chose qui est extérieur. Quand elle est vécue comme une sorte règle extérieure, c'est que d'une certaine façon, elle n'a pas d'efficacité. Alors bon, évidemment, ce que je dis est assez approximatif, parce que je ne peux pas m'exprimer de façon rigoureuse ici. Mais voyez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que jamais chez Spinoza, il n'y a un discours qui oppose l'affectif et l'intellectuel. Au contraire.
Non, mais c'est vrai que l'entendement est quand même
le moteur.
Ce qu'il faut travailler.
Absolument. Mais en ce qu'il a des effets sur les affects.
Mais pour autant, ne prive pas, en coupant les affects, mais en les accompagnant.
En les accompagnant et en les accomplissant. Parce que c'est ça. Alors, bon, c'est là que c'est. Là, il faut du temps hein, pour lire ça. Il faut, on avait lu la troisième partie de l'éthique et un petit peu la quatrième. On avait, à la fin de l'année, fait une petite vidéo sur l'amour. Spinoza. Bon, alors, c'est toujours. Vous l'avez en YouTube. Donc, vous pouvez écouter ça. Bon. Et ça peut être utile. Oui ?
Quand il dit que les rapports au monde, quand il dit que les lois de la nature sont immuables et éternelles, il le prend comme une vérité ou comme un principe ?
Allez-y.
Je veux dire, ben voilà, pour ce qui est de l'attitude scientifique, on pose par principe que les lois sont valables de tout temps et dans tout l'univers, sinon on ne pourrait pas établir de lois.
C'est clair.
Mais c'est en principe.
En principe, oui.
Il se pourrait que l'univers soit inintelligible.
Il se pourrait que l'univers soit inintelligible. Ah ben si, il est intelligent. Là, c'est une... Alors là, il y a une affirmation à la base, si on peut dire. Il y a une affirmation à la base. C'est-à-dire que. Voilà. C'est un rationalisme absolu.
A priori,
Ah oui, voilà, là c'est. Bon, on parle d'un dogme, c'est pas un dogme, mais c'est un principe, oui, principe absolu. Mais qui prétend pouvoir établir par la raison. Enfin, là, il faut lire la première partie de l'éthique. Donc, là, il n'y a pas. En fait, nous pensons qu'il y a du hasard, qu'il y a de la contingence. Mais c'est cela. N'est jamais que la projection de notre ignorance sur les choses. C'est parce que nous ignorons l'enchaînement des causes qui détermine les phénomènes que nous sommes enclins à parler de hasard. Étant entendu, bien sûr, que quand on parle de déterminisme ici, il y a un enchevêtrement de causes, une infinité de causes qui jouent, qui font que, évidemment, nous ne sommes pas en mesure de les comprendre. Nous n'en comprenons qu'une petite partie.
Oui, mais il serait possible de les comprendre.
Et voilà. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a rien d'inexplicable a priori.
Rien d'inexplicable. Ouais. L'entendement de l'homme, c'est le même que l'entendement de Dieu.
Il est l'expression. Oui, il n'y a pas de nature différente. L'entendement. Ce n'est pas une faculté. Ce n'est pas une faculté, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au fond, il est constitué par les idées qui sont en nous. Et qui sont l'expression, effectivement, de Dieu. Et plus nous développons ces idées, et plus nous connaissons, et plus nous sommes actifs.
Je pense qu'aussi, il faut remettre un petit peu, on est dans le contexte de la science qui est décente, en fait.
Oui.
Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on peut imaginer une lecture un peu différente.
Ah non.
Une science un peu différente
Déterminisme absolu, c'est même si bien sûr. Non, mais par contre, qu'il y ait.
Par exemple, je pense à la relativité.
Non, mais qu'il y ait.
Oui. Peut-être remettre en cause le principe de causalité.
Oui.
Tel qu'il l'entendait.
Là, ça d'accord. Oui, je comprends. Mais bon, oui. Puis bon, qu'il y ait une histoire des sciences. Qu'il faille que cette histoire remette en question les vérités qui ont été. Mais ça n'est pas contradictoire avec sa conception. Pas une question, oui.
Vous avez rappelé plusieurs fois que Spinoza avait été condamné par ses pères, les rabbins.
Ouais.
A-t-il été condamné par l'Église catholique ?
Ah ben non. Il n'est pas... Attendez, on va reprendre les choses. Parce que, d'abord, en Hollande, c'est l'église calviniste qui domine. L'église catholique, les catholiques ont été marginalisés. Et puis il faut dire que, pour les Hollandais, la religion catholique, c'est la religion de l'oppresseur. Hein ? C'est le roi d'Espagne qui voulait imposer cette religion. Bon, donc, ils se sont émancipés en s'appuyant notamment sur le calvinisme. Hein ? Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a un courant calviniste orthodoxe qui est assez intolérant. Et il y a une sorte de, je dirais, d'alliance entre, je dirais, les autorités ecclésiastiques calvinistes et puis les rabbins de la synagogue qui ont bien compris qu'il fallait pas, il fallait faire attention, quoi. Il fallait pas faire scandale, il fallait rester dans les clous. C'est-à-dire que les Juifs ont le droit de pratiquer leur culte à condition, qu'on reste dans des choses raisonnables. Alors les rabbins, évidemment, n'ont pas pu admettre les positions prises par Spinoza. Et c'est en 1656, l'année même du miracle de la Sainte-Épine, que Spinoza a été exclu de la synagogue par un hérem, qui est d'une extrême violence. Hein. On n'a jamais vu une condamnation aussi violente dans la synagogue à Amsterdam. Et ça n'a pas franchement impressionné Spinoza, hein, puisqu'il a commencé une autre vie à partir de là. Alors, donc, il y avait certainement des accointances entre les rabbins et puis les autorités locales. Mais à l'époque, vous étiez dans une république et vous étiez, les autorités politiques, qui étaient les frères de Witt, étaient des autorités libérales. C'est-à-dire qu'ils étaient pour une certaine liberté de croyance, de culte. Et ils étaient plutôt, en opposition avec les autorités religieuses, qui, elles, cherchaient à imposer une église intolérante. Hein. Bon, vous savez, il y a eu toute une histoire assez mouvementée en Hollande. Hein. Donc, tant que ces autorités politiques étaient au pouvoir, jusqu'en 1672, je crois, d'une certaine façon, Spinoza a été relativement protégé. Il pouvait exprimer, effectivement, ses conceptions. Il était même ami avec un certain nombre de responsables politiques, hein, je crois. Mais à partir du moment où, effectivement, ce pouvoir a été renversé, à la faveur, d'ailleurs, à la cause de l'incursion de Louis XIV, des troupes de Louis XIV en Hollande, hein, eh bien, le pouvoir a été renversé, et puis à la place, c'est le Guillaume d'Orange, hein, qui a pris le pouvoir, soutenu par l'Église calviniste orthodoxe. Et à ce moment-là, on est entré dans une période d'intolérance. Ben, elle était en train déjà de monter, l'intolérance. Hein. Donc il y a eu, des tensions. C'est-à-dire que la Hollande, c'était tout de même de très loin en Europe la région, le pays, je dirais, le plus ouvert, le plus tolérant, mais même en Hollande, hein, il y avait des tensions, des difficultés, des frictions.
L'Église a quand même condamné Galilée, elle n'a pas condamné.
L'Église catholique.
Condamné Spinoza.
Ah ben en Hollande, il n'y avait pas l'Église catholique, n'était pas.
L'Église catholique devait bien avoir.
Ah oui, alors ce qui est vrai, là vous avez raison, c'est que d'ailleurs c'est vous qui aviez présenté une lettre d'Albert Bourg, d'un ancien disciple de Spinoza, qui était devenu catholique. Hein, qui était devenu catholique, et sa lettre est d'une intolérance absolument, d'une violence absolument incroyable. Hein. Il accuse carrément Spinoza d'être un homme corrompu, d'un homme vicieux, enfin bon, il l'invite à se convertir, hein, et au plus vite. Donc c'est extraordinaire, la violence des termes utilisés par Bourg, et qui est un homme intelligent, mais extrêmement dogmatique et obtus. Donc vous êtes dans un monde... extrêmement violent. Pas oublier ça. Et alors l'Église catholique n'a pas officiellement prononcé d'interdiction. Il n'a pas été accusé de crime d'hérésie puisqu'il n'était pas catholique. Hein. Donc, par contre, oui, comment dirais-je, la synagogue a exclu Spinoza. Il a été exclu. Il a été radicalement exclu de sa communauté. Et Spinoza, ça ne l'a pas gêné, considérait que finalement, c'était une bonne chose. Pas si simple, hein. Mais oui, là, et il s'est rapproché des milieux chrétiens, je dirais libéraux, qui, je dirais, s'organisaient sans église. Enfin bon, il y avait plusieurs sectes. Enfin, secte, c'est pas un mot péjoratif hein, à l'époque. Plusieurs courants, carrément courants. Et il fréquentait ces personnes-là. Il faut lire la correspondance de Spinoza avec certains de ses interlocuteurs. Parce que, il y a des lettres qui sont difficiles, mais il y en a quelques-unes. Franchement, c'est lisible. Il a échangé avec un correspondant sur la question des spectres, ou sur le mal, sur plusieurs questions. Et c'est vrai que c'est dans sa correspondance qu'il s'exprime sur la question des miracles dans le Nouveau Testament. Voilà, ça c'est vrai. Voyez ? Voilà. Est-ce que on peut considérer que la séance est close ? Eh bien, à la prochaine, normalement au 12. Hein.